pureté. Pureté, pureté. Les Presses universitaires de Rennes vous offrent le thé et ses auteurs sur un plateau d'argent. Tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque universitaire centrale et le jeudi à 17h sur Scilab.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de Scilab pour une toute nouvelle émission, Pureté, les Presses universitaires de Rennes qui organisent tous les mardis à partir de 12h30 à la bibliothèque des rencontres avec ses auteurs bien entendu. Et la première rencontre était consacrée à Jean-François Roulin avec son vocabulaire critique d'architecture à l'usage des étudiants et de ceux qui aspirent à le devenir. Une version humoristique et courte, également lisible par ceux qui ne seraient ni l'un ni l'autre. Nous donnerons donc chaque semaine, à partir d'aujourd'hui, le jeudi à 17h, la parole à ces auteurs qui ont beaucoup à dire, puisqu'ils ont déjà beaucoup à écrire. Tout de suite, on découvre Jean-François Roulin.
Alors d'abord, bonjour à tous et merci d'être venus. Le livre dont on va parler est un bouquin drôle. Sa première caractéristique, c'est que presque à chaque page, on rigole. Sa deuxième caractéristique, c'est que à chaque fois qu'on rigole, on est obligé de réfléchir. Alors, Jean-François va nous en parler. Il a une façon d'aborder l'architecture qui est disposée suivant un ordre. C'est pas l'ordre des architectes, c'est l'ordre alphabétique. Et puis, à chaque fois qu'il y a de l'ordre, il y a une critique de l'ordre. Et assez souvent, il y a une mise en cause de l'objet qu'il décrit. Alors, je ne sais pas d'où il a trouvé cette astuce et cette idée intéressante, peut-être de son parcours qui est très polytopique, on va dire. Il est passé à travers toutes sortes de disciplines et toutes sortes d'écoles. Et il a fait quelque chose qui, de A à Z, fait surtout pas le tour de la problématique, mais qui fait franchement réfléchir au sujet de ce que c'est que l'architecture.
Ben, bonjour, hein. Merci Hervé pour cette présentation. C'est drôle, mais c'est sérieux. Je pense que c'est important quand même. Alors tu l'as un peu dit, ça, c'est pour inviter à réfléchir, mais selon une logique qui n'est pas la logique du déclaratif, mais plutôt la logique du performatif, pour reprendre des termes de la philosophie des constructivistes et cher à Jacques Derrida. Donc je vais quand même essayer un peu de répondre à la demande d'épure de pourquoi est-ce qu'on veut être publié. Pourquoi au pur ? Alors, pour répondre à cette question, et puis après, je vous parlerai du livre, hein, qui est, où il y a quand même une sorte d'adéquation entre sa forme et son fond. Les deux sont, malgré tout, complètement liés. Alors, pourquoi être publié ? Moi, j'ai envie de remonter un peu d'un cran, c'est-à-dire pourquoi écrire ? Et pourquoi écrire ? Parce qu'on a quelque chose à dire. Alors, c'est évident... quand on est dans l'université, mais je voudrais reprendre un peu ce que dit Jacques Derrida sur qu'est-ce que c'est qu'être professeur. Et ça introduit aussi un peu la notion de la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole de l'enseignant vis-à-vis de l'étudiant. Alors c'est dans cet ouvrage qui s'appelle « L'université sans condition ». Et si on a peu de temps, à la fin, je vous lirai un peu l'envoi qui est quand même qui est très programmatique pour nous tous, hein, même si nous sommes école d'architecture, nous ne sommes pas strictement dans l'université au sens où la France l'entend, mais quand dans le titre, il faut bien voir le U majuscule à université. Alors voilà ce qu'il dit de professer, donc ce qui m'amène un peu à l'écriture de ce livre. Professer, c'est donner un gage en engageant sa responsabilité. Faire profession de, c'est déclarer hautement ce qu'on est, ce qu'on croit, ce qu'on veut être, en demandant à l'autre de croire à cette déclaration sur parole. J'insiste sur cette valeur performative de la déclaration qui professe en promettant. Il faut bien marquer que les énoncés constatatifs et les discours de pur savoir, dans l'université ou ailleurs, ne relèvent pas en tant que tels de la profession au sens strict. Il relève, peut-être du métier, compétence, savoir, savoir-faire, mais non de la profession entendue en un sens rigoureux. Le discours de profession est toujours, d'une façon ou d'une autre, libre profession de foi. Il déborde le pur savoir technoscientifique dans l'engagement de la responsabilité. Professer, c'est s'engager en se déclarant. en se donnant pour, en promettant d'être ceci ou cela. Alors, je dis ça parce que c'est effectivement, je crois, pourquoi, quand on professe, eh ben, on a envie de vous dire quelque chose, vous étudiants, de faire partager quelque chose, et forcément après, de l'écrire. Parce que, oui, on dit que les paroles s'envolent, les écrits restent, et je crois que c'est très très vrai, au-delà de toute nécessité de carrière. Alors, que je ne mets pas du tout de côté, peut-être vous êtes en thèse, vous le serez un jour, il est important d'écrire, il est important d'être publié pour la carrière. Et la carrière au sens très noble du terme, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se construit au fur et à mesure de nos écrits. Moi, j'ai écrit des articles scientifiques hein, qui n'étaient pas drôles, comme ça, qui essayaient d'être sympathiques. Hein, bon. Mais c'est important d'écrire, c'est important pour nos établissements. Hein, vous connaissez l'histoire du classement de Shanghai, où il faut monter dans les marches pour que nos universités soient reconnues. Donc, il faut écrire, la carrière, c'est important. Bon, mais là, je vais pas trop en parler. Ce qui est important, c'est effectivement ce qu'on en a à dire et de pouvoir le laisser derrière soi. Alors, c'est peut-être aussi un peu, il y a un peu d'orgueil dans la chose, mais pourquoi pas hein, c'est-à-dire qu'effectivement, mais comme le dit un peu, enfin beaucoup mieux que moi, Jacques Derrida, on n'est pas là pour rien. Hein, je pense, on est là parce que. On s'est engagé dans ce métier de professer une foi, c'est-à-dire de vous communiquer quelque chose. Et puis écrire, ça je pense que c'est une notion très importante dans l'écriture scientifique. Et je me réfère à là, Jacques Rancière, hein, en particulier à son petit livre « Les mots de l'histoire », où il dit bien que les mots dans l'écriture scientifique ne sont pas neutres. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas comme on serait une machine à écrire. Hein, l'écriture est performative, l'écriture fait penser. Et quand on écrit, et même quand on parle, enfin, faut pas que je dise trop parce que c'est toujours angoissant, mais des fois, quand je faisais un cours sur l'architecture et la littérature, donc en amont sur le langage, j'ai essayé de développer ça. Et par moments, en disant que je ne sais pas ce que je vais vous dire avant de prononcer la phrase, j'avais une vraie angoisse. Et j'avais un trou, parce que c'est vraiment une mise en abîme de la parole et donc du langage et de l'écriture. Hein. C'est-à-dire, ne pensez pas que le professeur qui est en face de vous, ne le pensez pas comme une machine à déclarer ce qu'il sait. C'est quelqu'un qui professe une foi. S'il ne le fait pas, même sans le savoir, je pense qu'il ferait mieux de changer de métier. Hein, c'est un peu, sans être polémique, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations, des fois qu'on n'a pas choisi, c'est le hasard, c'est très bien. Il y a des chercheurs qui ne veulent pas être professeurs, hein, qui veulent bien faire des conférences, tant mieux, c'est bien, c'est important, mais être professeur, c'est un peu autre chose. C'est pas qu'à un moment restituer un savoir, c'est faire que les étudiants sont en condition de comprendre ce qu'on leur dit, de comprendre ce savoir. Hein, c'est comment est-ce qu'on apprend aujourd'hui. C'est une question très importante. Alors, voilà pourquoi écrire, hein, pour continuer à faire preuve d'une foi. Je pense que c'est important. Alors, pourquoi au pur, hein, qui est quand même, mais c'est important ce que vous faites, hein, Estelle. Et pourquoi au pur ? Mais par courtoisie, c'est tout simple, mais c'est important. C'est-à-dire que je suis arrivé ici en juin 2014. J'avais ce manuscrit presque fini dans les poches. Et pour moi, c'était comme une sorte d'évidence de le proposer aux presses universitaires de Rennes. Parce que vous êtes là. J'étais là. On est tous enseignement supérieur. Il y avait la Commu-E, l'UBL, tout ça. On a intérêt à s'aider les uns les autres, à faire qu'on ait. Que tous ensemble, c'est un peu le lisme, tous ensemble, on est un peu plus que la salle des parties, c'est important. Puis les purs sont bien diffusés. Donc j'ai envoyé mon manuscrit au pur, à Pierre Corbel, qui l'a fait lire, qui l'a mis en lecture, comme il se doit. Et puis voilà, le manuscrit a été accepté, et j'en suis très content. Alors il y a quand même une petite chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un éditeur est aussi un commerçant. Moi j'ai des amis libraires, ils disent on est commerçant, c'est-à-dire qu'on doit vivre du produit de notre vente. Alors sans doute que les purs sont aidés par l'université, il y a des postes qui sont mis à disposition, des locaux, tant mieux. Mais malgré tout, un éditeur existe par les livres qu'il vend, qu'il diffuse et qu'il vend. C'est important. Ah, donc il y a des intérêts communs entre l'éditeur et les auteurs. Les auteurs ont intérêt à ce que les livres se vendent, et se vendent bien, parce que les idées sont diffusées. Et puis, l'éditeur a intérêt à trouver des bons livres. Et on connaît un peu tous l'exemple d'Actes Sud, qui était un tout petit éditeur au départ, hein, qui était à Nîmes. Il a été vraiment lancé en éditant Nina Berberova, qui était très peu connue, mais tous les lecteurs de Libé, du Nouvel Obs et tous ceux qui écoutaient Bernard Pivot se sont passionnés pour Nina Berberova et ils ont fait un tabac et ça leur a permis d'éditer beaucoup d'autres éditeurs. Alors ils ont réédité avec Paul Auster, avec Millennium et comme ça, mais ça permet effectivement de faire des éditions beaucoup plus, et c'est vrai pour tous les éditeurs. Et j'espère que bien sûr, mon livre va permettre au pur d'éditer beaucoup d'autres livres. Alors, je l'ai dit avec humour, mais c'est vrai. Hein, je pense qu'il y a... Et donc, j'ai participé à des signatures au Fayère, j'ai participé à une émission de radio sur ce livre. Et je suis là aussi parce que c'est des intérêts communs. Alors, vous êtes très peu nombreux, mais il y a la qualité, je le sais. Et on sera rediffusé. Et je pense que c'est vraiment important, hein, cette édition pour Rennes, pour la Bretagne et pour la science avec un grand S et l'université en général. Hein, alors après, bon, il y a des contraintes d'édition, je ne vais pas développer.
Pureté. Découvrez tous les auteurs des presses universitaires de Rennes chaque jeudi à 17h sur Syllab.
Jean-François Roulin, vocabulaire critique d'architecture à l'usage des étudiants et de ceux qui aspirent à le devenir, avec un sous-titre, version humoristique et courte, également lisible par ceux qui ne seraient ni l'un ni l'autre. Alors ce livre, comment est-ce qu'il est Il a cette forme, hein, qui... Tu m'interromps hein, si je suis trop bavard, si tu as envie, de me titiller. Comme je vous le disais, j'ai écrit des articles scientifiques, j'ai une carrière derrière moi maintenant, il y en a une autre à venir, je ne sais pas laquelle. Ça voit pas la radio, mais celui qui parle a quelques cheveux blancs. Je fais l'image et le son en même temps. J'ai une carrière qui a alterné entre l'enseignement de l'architecture et le pilotage, l'animation d'établissements d'enseignement supérieur, à commencer par l'école des Ponts et Chaussées, où j'étais chargé de structure qui enseignait l'urbanisme à l'école des Ponts et Chaussées. Et donc j'ai une carrière à la fois où j'étais enseignant aussi, une carrière qui a alterné entre la profession d'une profession. J'ai été urbaniste, hein, je suis géographe, comme Hervé l'a pas rappelé. Donc je suis géographe, je suis urbaniste, j'ai été enseignant en urbanisme, j'ai été urbaniste professionnel, et puis de là, j'ai effectivement dirigé des écoles d'architecture, je suis revenu à l'enseignement et à la recherche, et aujourd'hui je suis de nouveau directeur d'école. Donc tout au long de ma carrière, je me suis posé des questions sur effectivement l'architecture. Mais vous allez voir comment ça se boucle, à partir du fait que les architectes avaient beaucoup de difficultés quand ils étaient face à des élus ou face à des urbanistes à expliquer pourquoi un projet était ou pas de qualité. Et j'ai assez vite fait l'hypothèse que c'était parce que le mode de pensée qui formait les architectes n'était pas ce mode de pensée hypothético-déductif, pour le dire vite, qui était celui de beaucoup de disciplines universitaires. Ça relevait de l'induction, de l'itérative, des choses comme ça, et de quelque chose qui était là et qui était peut-être indicible, parce que ça, aujourd'hui, je le dis comme ça, je ne le disais pas à l'époque, ça relève de la... d'une certaine poétique de l'espace. Alors, vous connaissez peut-être le livre de Bachelard, La poétique de l'espace, qui est surtout un livre de phénoménologie où il dit beaucoup de bêtises, à mon avis, parce que c'est là où l'auteur, lui, enfin, on sent l'auteur hein, derrière. Il dit, par exemple, que l'appartement est un trou conditionnel par rapport à la maison. Je trouve ça terrible quand on lit ça aujourd'hui, pour tous ceux qui sont, voilà, on voit en face, nous tous, on n'est pas dans les petites maisons, jolies, toit à deux pans. Bon. Donc, il y a, toute ma culture, une culture de questionnement, sans doute, par rapport à cette pensée. Qu'est-ce qui construit la pensée ? C'est le dessin, c'est les mots, c'est... Bon, alors, j'ai écrit des articles sérieux, ce livre, elle l'est aussi. Effectivement, à partir de cette culture, architecture-littérature, et puis, le temps passant, j'ai eu aussi envie de restituer un peu toutes ces questions et toute ma carrière, et en particulier ce dialogue permanent avec les étudiants. Quand on est directeur, il faut avoir ce dialogue avec les étudiants, dialogue qui ne veut pas dire que les étudiants ont toujours raison, mais il faut toujours écouter. Il y a des questions qui se posent. Et j'ai un souvenir qui est assez précis, c'est quand j'étais à Paris-Belleville comme directeur, il y a eu un mouvement étudiant, les étudiants un soir sont venus me demander l'autorisation d'occuper l'école. Et je leur dis, vous n'avez pas à me demander l'autorisation. C'est votre mouvement, c'est pas le mien. Moi, vous occupez l'école, fort bien, mais je n'ai pas à vous dire oui. Ce que j'ai à vous dire, c'est préserver le bâtiment, préserver votre outil de travail, préserver votre propre sécurité. Mais moi, vous occupez. Et ça, c'est un exemple qui dit bien ce dialogue qu'on doit avoir, je crois, avec les étudiants. Alors, je ne sais pas comment fonctionne Olivier David, et ce n'est pas du tout la même échelle. Ce n'est pas du tout facile, je sais, je le connais un peu. Bon, mais il y a quand même cette chose qui est là, qui est importante. Donc, j'avais envie de reparler de ça, hein, et de parler de cette idée qu'il y a quelque chose qui marche entre ce que sont les écoles d'architecture, l'enseignement de l'architecture et l'architecture elle-même. C'est-à-dire que les écoles d'architecture sont des institutions qui se cherchent en permanence. Ça va jamais. Il faut toujours modifier quelque chose. On prend une décision, il y en a toujours un qui revient dessus. C'est bon. Alors, c'est sans doute pareil avec l'université. Dans l'enseignement de l'architecture, qu'est-ce qu'on enseigne ? Qu'est-ce qu'on peut enseigner ? C'est la question de la théorie. Il y a une entrée là-dessus. Et puis, l'architecture, qu'est-ce que c'est ? Qui renvoie à la question comment on l'a dit ? Comment on l'a fait, comment on l'a décrit. Et je pense que, pour moi, l'architecture, enfin, je vais le dire à propos de ça, la théorie de l'architecture, ce n'est pas une théorie du faire, et surtout pas du bien faire. La théorie de l'architecture, c'est une théorie de la question. Qu'est-ce qu'on se pose comme question pour faire l'architecture ? C'est quoi l'architecture ? Comme les littéraires se posent en permanence la question, c'est quoi la littérature ? C'est quoi la différence entre un jugement, la notice d'utilisation d'un appareil électroménager et puis un texte littéraire. Il n'y en a peut-être pas. Vous prenez Luchini, vous lui faites lire la notice de votre robot qui fait de la soupe, et tout comme ça, il transforme en littérature. Bon. Parce que ça dépend qui lit, qui écoute. Et donc, la théorie, ça ne peut pas être un traité. Et puis, il y a des traités, malgré tout, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait de l'architecture, les ordres Bon, il y a des pensées aussi sur l'architecture contemporaine, il y a des très belles phrases. Mais moi, je ne me sentais pas de faire ça parce que j'ai des problèmes de temps, il y a des problèmes de disponibilité. Je ne suis pas un bénédictin qui s'assoit à sa table tous les jours en disant « j'écris comme le faisait Victor Hugo de 6h du matin à midi » ou mon ancien ami... je connais des auteurs de polar qui est décédé, son nom m'échappe, qui écrivait comme Victor Hugo le matin. Et quand je l'ai fait des ateliers d'écriture avec lui. Donc qu'importe, mon cher ami, excuse-moi, ton nom me reviendra, mais je parle à outre-tombe, là, parce que c'est. Thierry Jonquet, voilà. Je savais bien que ça me reviendrait. Et pareil, il écrivait le matin. Et pour travailler avec lui, c'était l'après-midi. Bon. Donc, c'est un peu... Ce livre est un peu le résultat de tout ça, à la fois d'un questionnement global qui est pas forcément, que je voulais pas questionner en termes de traité, du fait que l'architecture, ça se questionne et ses entrées sont un peu là, existent sous forme de questions. Et puis c'est un travail d'écriture. J'écris de la littérature. Ça n'a jamais été publié, mais ça le sera un jour. Je croise les doigts. J'écris des poèmes, j'écris des haïkus. Écrire des haïkus, c'est essayer de dire le maximum de choses dans le minimum de mots. Et c'est un peu ça dans ce livre aussi, c'est dire le maximum de choses avec un minimum de lignes. Parce que il y a un lecteur qui est toujours là, je vous parlais, vous étudiants, et ce livre, effectivement, est un peu pour vous. Parce que il y a une connivence entre l'auteur et le lecteur à la théorie de la littérature aujourd'hui. C'est une théorie du lecteur, c'est pas une théorie du texte. Faut pas aller trop loin parce que le texte, il existe quand même et c'est important. Donc, je me suis fait plaisir et c'est vrai. Et je crois qu'il ne peut pas en être autrement. On ne peut pas écrire dans la douleur. On est amené à le faire quand on dans l'écriture scientifique. Écrire une thèse, c'est pas très facile, effectivement. Mais la douleur est souvent, entre guillemets, avec douleur, c'est la difficulté. Est souvent lié à ce que c'est Boileau qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et je crois qu'on a du mal à écrire, c'est aussi parce que on n'a pas assez écrit pour de faux, pour jouer. Hein, quand je parlais de performance, de performatif, en anglais tout perform, c'est jouer au sens du comédien qui joue. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette différence entre ce qu'on veut dire, le texte, et pour écrire bien ce qu'on veut dire, il faut l'écrire mal. Et ce qui est toute la logique du dessin. Un dessin, sauf si on est Giacometti ou Picasso, trois traits sont là et il n'y a pas de regret. Les trois, bon, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Donc voilà, ce livre est là. Je vous invite bien sûr à le lire. Il est à la bibliothèque, j'imagine. Si vraiment vous voulez une trace un peu plus permanente, la table est là avec quelques livres.
Jean-François Roulin,
Hervé Regnault, et je suis professeur de géographie à Rennes 2.
Pas véritablement une lecture au sens propre du terme, mais juste pour dire que ce qu'il vous a raconté, c'est vrai. Dans son bouquin, il y a un mot qui s'appelle « évaluation ». Et la première ligne, c'est « de l'enseignement par les étudiants ». Réfléchissez au cours de votre scolarité. Combien de fois avez-vous effectivement évalué les cours et les TD que vous avez subi. J'entends évaluer pas simplement une réunion informelle, enfin formelle même à la fin du trimestre, mais véritablement écrit sur un papier et donné au prof ou au chargé de cours qui fait le cours. Et l'autre élément, c'est d'envisager la transmission du savoir dans une dynamique de construction d'un savoir propre à chaque étudiant, qui est une personne. Donc l'évaluation, c'est quelque chose qui sert à l'enseignant, parce que ça crée, ce qui vous a dit tout à l'heure, une relation directe entre l'enseignant et l'enseigné. Donc évaluer et personne, je pense que dans une démarche qui est créatrice, c'est absolument fondamental. Alors nous ici à la fac, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, parce que dans pas mal de disciplines, on ne demande pas aux étudiants d'avoir une activité de création. Tu vois, les étudiants de première, deuxième année de géo, c'est pas quelque chose qui compte. Alors que par contre, dans d'autres disciplines, en art plat par exemple, ou en musique, ou en architecture, là, c'est quelque chose qui est évident. Donc vous êtes véritablement considérés comme des personnes avec une tête, avec une main qui dessine, et vous devez faire un lien entre ce que vous dessinez et ce que vous pensez. Et tous ces petits articles qui sont là, ils tournent toujours autour de cette... Alors, j'allais dire action performative, oui. Il tourne autour de cette espèce de démarche pédagogique qui est, bon sang, regardez, réfléchissez, dessinez, réfléchissez, et à partir du dessin, repensez de nouveau. Puis un jour, c'est vous qui écrivez. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut que vous... Enfin, moi, je pense qu'il faut le lire, et j'aimerais bien que pas mal d'étudiants en géo le lisent aussi. Tout au moins ceux qui sont en urbanisme. Alors, il y a aussi quelques petites remarques assez subtiles sur l'environnement, l'écologie, sur les rapports entre les chèvres et les loups dans les îles désertes. Donc, il y a vraiment de la richesse là-dedans.
Oui, alors, quand même, pour décoder, le rapport c'est à l'écologie, enfin, je veux bien le lire, ou tu le dis, mais c'est... Ou environnement, je ne sais plus. Je ne le connais pas par cœur.
Petite fable pour les étudiants qui n'auraient pas eu la chance de l'entendre à l'école primaire. Une île lointaine est partagée par des loups, des chèvres et de l'herbe. Première question, quel est l'intérêt premier des chèvres ? C'est d'être mangé par les loups. Bah si, parce que si personne ne mange les chèvres, elles bouffent toute l'herbe et elles meurent de faim. Quel est l'intérêt premier des loups ? Bah de surtout pas manger trop de chèvres. Parce que s'ils les mangent toutes, elles ne se reproduisent plus et ils meurent de faim. Alors, prenez cette petite fable d'école primaire et puis essayez ensuite de la prendre comme le modèle d'un système dynamique plus ou moins autorégulé, avec des contradictions. Et vous pouvez utiliser cette fable dans d'autres domaines que celui strict de l'environnement. Et là, ça se termine sur trois mots qui sont en italique et en gras. Il y a un mot qui s'appelle politique, un mot qui s'appelle durable et un mot qui s'appelle matérialité. Donc vous voyez, tout le bouquin est construit comme ça. Ça commence avec une blague, et à la fin, vous êtes obligé de réfléchir en vous disant « Mon Dieu, cette blague, elle signifie quand même beaucoup. » Alors j'ai pris celle-là parce que c'est celle que j'ai recyclée auprès de mes étudiants le plus rapidement, c'est ce qui marchait le mieux dans leur programme. Mais il y a plein d'autres solutions.
Alors pour rendre à César ce qui est à César, je me rends compte que je ne l'ai pas écrit dans le livre. Ça me vient d'un, quand j'étais étudiant en géographie, d'un professeur de géographie, dont le nom peut-être est resté à travers quelques bibliographies, qui s'appelait Olivier Dollfus, qui est en géographie, qui en géographie est un des premiers qui a introduit, je crois, cette notion d'écologie. Il a travaillé beaucoup sur les Andes et voilà, ça, effectivement, je me...
Il y a des bouquins de lui en bibliothèque, si vous voulez.
Ça vient de lui, donc c'était quand même début des années 70, hein, pour dire que l'écologie est quelque chose qui... Il apparaissait, oui, tout à fait. C'est ça. Alors, Hervé, tu parlais du dessin et de l'œil. Je pense que les mots sont extrêmement importants, quelles que soient les disciplines. Et que bien sûr, quand vous êtes en premier cycle, par exemple en géographie, ça semble peu créatif. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas trop... Enfin, tout le monde doit être créatif. Hein. Je pense que c'est important. Il y avait eu un appel à recherche de l'ANR, qui est l'Agence nationale de recherche, justement sur ce qu'était la création, qui concernait à la fois les écoles d'ingénieurs, les écoles d'art, le champ plastique, le champ esthétique, comme le champ des écoles, le champ des sciences pour l'ingénieur. Hein, c'est-à-dire que on est tous... Il y a un moment, la page blanche, elle est trop chargée pour être vraiment blanche. Hein. C'est un peu le problème de la création. J'ai un ami, un collègue qui connaissait toute l'histoire de la peinture et il était incapable de peindre. Enfin, il avait beaucoup de mal à terminer ses œuvres parce que tout de suite, il se disait « Ah mais, machin l'a déjà fait, je ne vais pas le refaire. Et pourquoi pas ?» Hein, l'important, chaque œuvre. Voilà. Je dis ça pour vous dire que dans le mot est aussi très créatif. Le mot appelle autre mot. Hein, et que quand on est étudiant, vous n'êtes pas là pour restituer stricto sensu des choses qu'on vous a apprises. Il faut qu'à chaque fois, vous construisez votre pensée. Et je pense que c'est peut-être aussi de l'ordre de la création. C'est une question. Mais je voulais vous lire un petit article. Mais vas-y, Hervé.
Non, mais vous n'êtes pas extrêmement nombreux, mais faites passer le message. Vous n'êtes pas là pour recracher des trucs qu'on a pensé à votre place. Non, il vient de vous le dire beaucoup plus poliment que moi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien de plus chiant pour un prof que de relire son cours dans les copies. Donc rappelez-vous de ça, si vous utilisez les mots de façon à ce qu'ils soient capables de créer quelque chose de nouveau, vous pouvez utiliser les mots dont vous avez appris les significations, mais vous pouvez les utiliser de telle façon qu'ils racontent quelque chose d'autre, de plus, de entre guillemets mieux, que ce que le prof vous a demandé d'apprendre. Mais ça, quand on dit aux étudiants, tu peux venir en partiel avec le cours, parce que de toute façon, la question que je te pose, la réponse n'est pas dans le cours, enfin, on peut pas recopier une partie du cours, bah, c'est pas facile à accepter pour certains étudiants. Parce qu'il n'y a rien de plus rassurant que de recracher ce qu'on a appris. Alors là, il est en train de vous dire non, surtout. Apprenez-le, réfléchissez, mais ensuite, même si vous utilisez les mêmes mots, les mêmes formes, les mêmes graphismes, les mêmes éventuellement concepts, vous êtes là pour en faire autre chose. Ça, c'est fondamental, oui.
Pureté. L'émission des presses universitaires de Rennes sur Scilab.
Il y a une autre façon de le dire qui est un peu peut-être ça aussi dans le livre. Hein. En sciences de l'éducation, on parle de carte des savoirs. Pour moi, la carte des savoirs, c'est la carte d'un archipel. Et vraiment, j'en parle d'expérience, de la pensée, de la pratique pédagogique. C'est-à-dire qu'on met quelque part dans notre cerveau un certain nombre d'éléments et petit à petit, il y a d'autres îles qui se créent à travers ça, à partir des autres. Et il y a le chemin parcouru entre les îles. Et ça, je pense que je me permets de le penser intéressant comme pensez-vous votre propre savoir, comment vous apprenez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que vous sortirez de l'université avec un puzzle entièrement fini. Ce puzzle, ce sera à vous de reconstruire des morceaux. C'est comme dans la vie, il y a un morceau du puzzle qui disparaît, parce qu'effectivement, on est tous mortels. Et puis, il y a des morceaux de puzzle qui se reconstruisent. Et je pense que le savoir, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui est en permanent. Enfin, on dit toujours, on va apprendre tout au long de notre vie. Oui, mais il faut apprendre partout, hein, et pas seulement... Alors, par rapport à la création, je voulais quand même vous lire... c'est sur la même page. Arché, mot venant du grec ancien signifiant le premier, l'origine. Ce au-delà de quoi on ne peut remonter. Associé à Teklon, autre racine grecque ayant trait à la construction, a donné architecte. Donc là, c'est une citation de Paul Ricoeur. Après, l'idée de quelque chose qui fait commencer le reste sans avoir soi-même de commencement met un terme à cette régression sans fin dans les générations des dieux de la mythologie. Plus loin, Paul Ricoeur dit avoir, ouvrez les guillemets, la conviction que l'ontologie, sous peine de se casser en deux, est la racine commune de l'être au sens du donné et de l'être au sens de la valeur. Donc c'est dans Paul Ricoeur, Histoire et vérité, puissance de l'affirmation, 1955, cité par Foessel, Michel et Lamouche Fabien, dans Ricoeur, texte choisi, Paris, Le Seuil, collection Le Point Essai, 2007, page 251. Pour vous dire quand même que c'est un peu sérieux. Je donne toutes les citations et toutes les coordonnées. Alors, petit problème, enfin là, un peu technique, en termes d'édition et d'écriture, c'est que, vous savez, les ouvrages universitaires, les notes sont ou en bas de page, ou en fin de paragraphe, ou en fin de texte. Et là, moi, j'étais obligé de les mettre en infratexte, c'est-à-dire d'écrire aussi en fonction des références. Alors, je termine en disant « toute œuvre a ainsi son arché qui n'a d'autre origine qu'un acte d'auteur. Elle y trouve tout à la fois son donné, sa première matérialisation, quelques traits qui feront projet et son sens. Alors peut-être est-ce cela que Louis Kahn appelait « the form ». Louis Kahn, c'est un architecte américain qui effectivement parlait de « the form », qui était à la fois le dessin, on pourrait le traduire en français, le dessin de S-E-I-N et le dessin de S-I-N, même quelques traits. Je vous cite ça parce que je pense vraiment que ça renvoie à des écrits de Jacques Rancière sur le métier des sciences humaines et qu'il y a vraiment quelque chose que, on cherche, oui, on réfléchit, oui, même chez Bourdieu, on a des pages, des enquêtes, mais la façon dont on rend, c'est un vrai acte créatif, hein, qui n'est pas la création forcément artistique, mais qui enlève quand même que, on ne sait pas exactement ce que sera le travail fini avant qu'il soit fini. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va au-delà de l'architecture, au-delà de l'art, et qu'il faut penser aujourd'hui comme ça, dans notre travail dit scientifique. Alors, à la même page, j'ai architecte, architecture, pour architecte, tous imbéciles, Oublie toujours l'escalier des maisons. C'est de qui ? Gustave Flaubert. Alors, heureusement que ça a été écrit dans le dictionnaire des idées reçues. Hein, c'est bien les idées reçues que Flaubert restitue et pas du tout ce qu'il pense parce qu'il a écrit aussi des belles choses. Personne habillée en noir et seule sur son rocher, un œil sur l'horizon de la commande et le palmarès des Najap, l'autre sur ses ordinateurs. Alors, les Najap, c'est les nouveaux albums de l'Argène architecture et du paysage. Autre proposition, personne à la chevelure blanche et en veste de velours pleine de poches, d'où sortent des crayons et où l'on aperçoit des carnets de croquis. Personne masculine, de moins de 40 ans, ou voulant ne pas paraître plus, en jean et blouson collant, chaussures pointues et au crâne presque rasé, rien ne la distingue d'un communicant. La même personne féminine n'a pas le crâne rasé. Personne modeste, habillée comme tout le monde, et ne pensant qu'à effectuer honnêtement son travail, qui est de faire que l'homme habite le monde en poète, comme le disait Heidegger. La France compte à peu près 30 000 architectes de ce modèle-là, ce qui est rapporté à la population est moins qu'en Allemagne, référence obligée quand on parle d'économie en France. Voilà. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci à vous encore une fois de votre invitation, de votre accueil, et d'être là. Hein, et encore une fois, c'est pas très grave qu'on ne soit pas très nombreux. L'important, c'est que les choses soient. Merci encore.
Jean-François Roulin et le titre de l'ouvrage, Vocabulaire critique d'architecture à l'usage des étudiants et de ceux qui aspirent à le devenir, avec un sous-titre, version humoristique et courte, également lisible par ceux qui ne seraient ni l'un ni l'autre. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est quand même tout public à condition qu'on ait envie.
Pureté, pureté, pureté. Les presses universitaires de Rennes vous offrent le thé et ses auteurs sur un plateau d'argent. Tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque universitaire centrale et le jeudi à 17h sur Syllab.
Donc retrouvez-nous le 28 février 2017, de 12h, toujours de 12h30 à 13h30, à la BU Centrale, au premier étage, à la salle des écrivains du Sud, pour écouter le passionnant Denis Rodriguez, professeur des universités en civilisation espagnole, qui nous parlera de l'Espagne sous le régime de Franco. Tout un programme. Et le même soir, vous pourrez venir au Fonds Régional d'Art Contemporain, au FRAC, écouter une rencontre des auteurs du livre « Les inventions photographiques du paysage » à partir de 18h.
Merci beaucoup d'avoir suivi Pureté pour cette toute première édition et promis, la prochaine fois, on essaiera d'avoir un petit peu meilleure qualité de son. En tout cas, Pureté, c'est bien sûr en partenariat avec les presses universitaires de Rennes et vous retrouvez tout ça en podcast sur Syllab.